Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et nous croyons que c'est ta parole qui nous aide, Seigneur. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous donne la sagesse et l'intelligence du royaume. Merci parce que tu as créé un monde invisible. Et Père, je prie pour que ce soit une grande révélation sur ton peuple. Afin que nous puissions comprendre que c'est ce monde invisible qui règne. Le bon, mon invisible, ou le mauvais, malheureusement. Le bon ou le mauvais, malheureusement. C'est pourquoi, Père, je prie pour que tu puisses nous aider à mieux comprendre et à découvrir dans ta parole ce que dit ta parole et ce que ne dit pas ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le monde invisible, ça fait longtemps que je suis sur cette série-là. Et je vous rappelle qu'il y a un monde invisible et un monde visible. Le monde visible a été mis à l'existence, créé par Dieu. Et c'est le monde invisible qui a amené le monde visible à l'existence. Le monde invisible, tu ne peux pas le voir parce que tu as des yeux de chair et ton corps est un corps mortel. C'est pour ça que la Bible va nous donner un certain nombre de révélations sur ce monde. Et c'est très important parce que quand vous témoignez de Jésus,
c'est-à-dire
que je suis sauvé, quand je vais mourir, je vais aller au ciel, et tu peux avoir un pécheur qui dit, oui, mais il y a quoi au ciel? Ah bah tu sais, il doit y avoir Dieu. Puis le reste, bah on verra bien quand on sera là-haut. Non, Dieu nous donne des réponses dans sa parole. C'est pourquoi nous devons être capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme dit la parole de Dieu dans Pierre. Donc tu dois savoir ce qu'il y a dans le ciel. D'après ce que la parole de Dieu dit, tu dois connaître le monde invisible qu'il y a aussi sur la terre. Tu dois savoir aussi ce qu'il y a sous la terre. Et qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi? Parce que cela te permettra d'abord de fonder ta foi et d'autre part aussi, bien évidemment, cela va t'aider à empêcher toutes les fausses doctrines et les fausses croyances d'avoir une influence sur toi. Donc nous avons commencé à étudier un certain nombre de choses. Et nous avons vu le ciel. Nous avions vu les trois cieux. Premier ciel, l'atmosphère terrestre. Deuxième ciel, les planètes et les étoiles. Troisième ciel, là où il y a le trône de Dieu. La Jérusalem céleste. Et ce qui entoure la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis. Nous avons fait des comparaisons entre les visions que des prophètes avaient reçues dans l'Ancien Testament et des visions du Nouveau Testament. Et nous avons remarqué un certain nombre de choses. D'abord que à chaque fois ils ont vu Dieu assis sur un trône. Nous avions étudié les visions d'Ézéchiel chapitre 1 et visions d'Ézéchiel chapitre 10. Nous avons aussi étudié Ésaïe chapitre 6 où le prophète Ésaïe va voir le Seigneur. Et puis nous avons commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait autour du trône. Et nous nous sommes aperçus qu'il y a des créatures angéliques de très très haut rang, des chérubins et des séraphins. Et nous avons vu que les séraphins et les chérubins, ce sont les gardiens du trône et du ciel en général. Nulle part la Bible décrit que dans le troisième ciel, auprès de Dieu, il y a des démons qui se baladent et qui peuvent faire tout un tas de trucs. Le trône de Dieu et le ciel sont parfaitement gardés. Le troisième ciel. Et en fait, on a vu aussi que dans le Nouveau Testament,
nous
allons avoir des révélations complémentaires. Je vous rappelle que la Bible est une révélation progressive.
Ça
veut dire que nous connaissons beaucoup plus de choses sur Dieu et sur le monde spirituel en tant que nouvelle créature en Christ que ce que les anciens, ceux de l'Ancien Testament connaissaient. Dieu va nous montrer dans sa parole qu'il va y avoir 24 trônes autour du trône de Dieu. Nous avons vu qu'il y a 24 anciens. Et on s'est posé qui étaient ces 24 anciens et la Bible nous donne en partie la réponse. Jésus a promis que ses 12 disciples seraient assis sur des trônes. Mais nous savons que Judas a péché et nous pensons clairement que c'est Paul qui a pris la place de Judas. Les 12 autres sont certainement des héros de l'Ancien Testament qui ont marqué particulièrement l'histoire du peuple juif. Et on peut se douter que des gens comme Abraham, des gens comme Moïse, comme le roi David, un certain nombre de prophètes qui ont été assassinés, qui ont fait de grandes choses pour Dieu, sont certainement sur ces trônes, mais nous n'en avons pas la liste qu'on appelle exhaustive, c'est-à-dire complète. Et nous avons remarqué qu'entre les visions de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament du trône, il n'y avait personne dans les visions de l'Ancien Testament. Il voyait le trône, il voyait Dieu, il voyait le trône, mais il voyait personne autour du trône. Par contre, quand on voit les visions de l'Apocalypse, on voit qu'il y a un peuple nombreux au ciel. Et c'est normal parce que personne ne pouvait aller au ciel avant que Jésus ne soit ressuscité d'entre les morts. Qu'il soit venu libérer les captifs qui étaient ce qu'on appelle dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire les croyants de l'Ancien Testament mais qui n'étaient pas nés de nouveau, et que Jésus a libéré, a fait naître de nouveau après sa résurrection, parce qu'il ne pouvait pas bénéficier du sacrifice de Christ puisque Jésus n'était pas encore venu. Et je vous rappelle que ni Enoch ni Élie ont été dans la présence de Dieu quand ils sont morts. Sinon cela voudrait dire qu'il y a un salut en dehors de Jésus. Et on aurait pu dire Enoch, on aurait pu dire Élie, et après tout on aurait pu dire aussi Marie. Et la Bible est claire, il n'y a de salut en aucun autre. Donc nous avons découvert qu'il y a bien sûr une immense foule au ciel. Et au troisième ciel, c'est là où nous allons quand un chrétien né de nouveau meurt, il quitte son corps. Et la Bible nous dit clairement que nous allons auprès du Seigneur. Donc il y a une immense foule. Mais aussi on a vu qu'il y a la Jérusalem céleste. Nous avons vu sa dimension, la Bible nous la donne. 1200 km de côté. Et autour de la Jérusalem céleste, il y a bien sûr le paradis. On a vu qu'il y a des montagnes dans le ciel. Il y a une rivière. Il y a des arbres. Il y a plein de choses au ciel. La Bible nous décrit ces choses. Et nous allons continuer cette étude. Et aujourd'hui, nous allons parler des anges. Parce que les anges tiennent un rôle important dans le monde invisible. Vous savez, je suis très triste de voir qu'il y a autant de prédicateurs et de chrétiens qui pensent que le diable et démons, ils sont forts, ils font ceci, ils font cela. Mais on va voir que les anges ont un rôle beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que le diable et les démons. Apprenez à vous concentrer sur Jésus. Et quand il y en a un qui vous cherche des histoires, un démon ou le diable vous cherche des histoires, ça sera facile. Par contre, les gens qui sont tout le temps en train de penser « Ah, le diable fait ceci, ah, le diable fait cela, ah, les démons ceci, ah, les malédictions, ah, ah, ah. » eh bien, ça amène des chrétiens à vivre dans la défaite. Et Dieu ne veut pas que tu vives dans la défaite. Dieu veut que tu apprennes à vivre en ayant conscience du monde qui t'entoure. Le monde de Dieu qui est là pour toi. Pour voir sa puissance. Pour voir sa grâce et sa bénédiction. Si tu n'as pas conscience de cela,
eh
bien, tu vivras dans la défaite. Parce que tu vas toujours te concentrer en pensant que les puissances des ténèbres peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire dans ta vie. Et ça, c'est une très grave erreur que l'on voit. Alors, reprenons deux textes que nous avions déjà étudiés et nous allons continuer là-dessus. C'est Hébreux chapitre 12,
12-22.
Et la Bible nous donne une description un peu général de ce que nous avions déjà vu. Et là, on va s'intéresser eh bien, justement à quelque chose. On mettra ce passage en parallèle avec l'Apocalypse 5, verset 11. Et là, il est dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. C'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. On peut mettre le verset 23, s'il vous plaît, et le 24 après. Verset 23, s'il vous plaît, merci. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont morts physiquement et qui sont au ciel, au troisième ciel. Du juge, qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Et verset 24, s'il vous plaît. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux celui d'Abel, que d'Abel.
Apocalypse 5,
verset
11.
Et dans l'Apocalypse 5, verset 11, nous allons aussi découvrir. Je vous rappelle, nous avions déjà étudié cette vision, chapitre 4 et chapitre 5 d'Apocalypse, où je vous rappelle que Jean va voir le trône et il va voir aussi les chérubins. Nous avons comparé les deux visions, celle d'Ézéchiel qui décrit les chérubins avec quatre faces, avec des yeux tout autour, avec six ailes qui sont là pour protéger, pour sécuriser le trône de Dieu. Et en fait, on a cette description donc, de ces chérubins. Et ensuite, on voit un certain nombre d'autres choses. On voit une foule qui est autour du trône. On voit les 24 trônes. Mais au chapitre 5, verset 11, et Jean dit, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants, des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades. Les êtres vivants, c'était bien sûr les chérubins qu'il décrit
ici.
Alors, ici on voit qu'il y a une multitude d'anges, c'est confirmé dans Hébreu, que nous avons lu tout à l'heure,
Hébreu 12.
Il y a une multitude d'anges au ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ces anges finalement? Comment sont-ils organisés, si jamais ils sont organisés? Quel est leur rôle en général? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont seulement au ciel? À quoi ressemblent-ils? Est-ce qu'ils sont aussi sur la terre? Est-ce qu'ils ont un rôle sur la terre? Et s'ils ont un rôle, quel rôle ont-ils? À quoi doit-on s'attendre? Nous, le peuple de Dieu, s'il y a des anges, à quoi servent-ils sur la terre? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? Et qu'est-ce que la parole de Dieu ne nous révèle pas? Parce que je vous rappelle qu'il faut faire extrêmement attention. Quand quelqu'un vient vous dire, j'ai reçu une vision, vous devez toujours regarder et interpréter cette vision selon la parole de Dieu. Parce que je tiens à vous dire que toutes les sectes qui ont démarré sur cette terre ont toujours des histoires de visitation angélique. Même les religions les pires. Vous regardez les musulmans, ça a commencé par une soi-disant révélation dans une caverne d'un ange. Sauf que cet ange aurait dit que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, c'était juste un prophète. Il y a bien des certaines sectes qui se réclament comme la science chrétienne ou toutes sortes de trucs comme ça bizarres. Eh bien, souvent des gens vont dire, j'ai reçu la visitation d'un ange. Et soi-disant, ils écrivent la révélation qu'ils ont reçue de l'ange. Des esprits sataniques de tromperie qui amènent des millions et des millions de gens en enfer. Et ces gens-là commencent avec des esprits sataniques de séduction. Disons qu'ils ont reçu des révélations d'anges. Mais tout ce qui est dit derrière va à l'encontre des Écritures dans les grandes lignes. Et c'est pour ça que vous devez développer votre discernement. Sachez que sur cette terre, il y aura de plus en plus d'activités spirituelles dans les décennies qui vont venir. Parce qu'on sent que le combat spirituel commence à s'intensifier entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Des choses commencent à bouger. Quand on voit la nation d'Israël, on sent qu'il y a des choses tremblantes en Israël. Hein. Ce sont des signes pour nous. Il y a un certain nombre de signes du retour imminent de Christ. Et avant le retour de Jésus, il y aura une grande confrontation de puissance. Un grand réveil qui va se produire. Ce qui veut dire aussi qu'il y aura beaucoup d'esprits séducteurs. Donc la Bible nous informe sur ça. Nous ne devons absolument pas du tout craindre quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut qu'on soit instruit. C'est les gens qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas affermis en Christ, qui se font détourner par des sectes, qui se font détourner par des esprits sataniques. C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance et marcher sur des convictions divines. Et à ce moment-là, rien ne peut nous détourner. Rien ne peut détruire l'Église de Dieu. À partir du moment où il y a des convictions sincères basées sur la parole de Dieu, une connaissance réelle du monde invisible qui amène quand des esprits sataniques essaient de tourner autour de gens à tout de suite discerner ces choses. Alors, qui sont les anges? Dans la Bible, nous en donne pas mal de descriptions, entre autres dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 7, la Bible va nous montrer ce que sont les anges et aussi en partie à quoi ils servent. Hébreux chapitre 1 verset 7, il est dit, il dit des anges, il a fait ses anges des vents. Littéralement, c'est esprit, c'est le mot grec pneuma, c'est pas du tout une bonne traduction ça, ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu.
Ngo kandi by'abamarayika yarabivuze ati hindura abamarayika bayo imiyaga canke impwemu abasavyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro.
Les anges sont donc des êtres spirituels.
Abamarayika rero ni biremwa by'impwemu.
Et il y a différentes catégories d'êtres spirituels. L'homme est un être spirituel. Et tout être spirituel possède ce qu'on appelle une âme, une personnalité. C'est-à-dire une intelligence, une sensibilité et une volonté. Vous n'avez pas d'esprit tout seul qui ont été créés. Quand Dieu a créé des êtres spirituels, il les crée toujours esprit et âme. Les anges sont esprit et âme. L'homme est esprit, âme et corps. Ça veut dire que les anges sont en deux dimensions. L'homme lui a été créé en trois dimensions. Nous avons cette capacité à pouvoir à la fois intervenir dans le monde spirituel mais aussi dans le monde physique. Les anges n'ont pas de corps. Ils n'ont qu'une certaine permission divine, dans certains cas, d'intervenir directement dans le monde physique.
Mais
d'après ce qu'on peut voir, c'est seulement selon la permission divine. Nous, nous avons la capacité à la fois d'intervenir dans le monde spirituel, de par notre nature spirituelle, et aussi directement dans le monde physique avec notre corps. Je vais lire le reste en français et on lira juste le verset 13 et 14 en Kirundi. Je vais lire le verset 8 en français. Mais il dit au Fils, c'est-à-dire à Dieu le Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, divinité de Jésus, bien sûr. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de joie, de préférence à tes compagnons. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même, et tes années n'en finiront pas. Verset 13, et auquel des anges, il compare Dieu le Fils aux anges, bien sûr. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Regardez bien ici, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?
Ati cyari buryo bwanje ushitsaho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi birenge byawe mbega abamareka bose simpwe muzikorera zitumwa gukora igikogwa kubgabazoragwa gakiza.
Donc la Bible nous dit clairement que les anges encore ici sont des esprits. Tout le monde dit les anges sont des esprits.
Les anges sont des esprits.
Amen. Au service de Dieu.
Urumva ngo ni mpwemu
au service de Dieu. Dites ça.
Au service de Dieu.
Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Répétez ça, s'il vous plaît.
Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
Qui sont ceux qui doivent hériter du salut? Eh bien, regarde ton voisin, c'est lui et c'est toi. Et c'est tous ceux qui sont déjà morts en Christ. Donc les anges doivent quoi faire? Ils sont là pour exercer un ministère envers nous. Ils sont là, théoriquement, pour exercer un ministère envers nous. À la fois sur la terre et à la fois au ciel. Parce que c'est nous qui hériterons du salut. La Bible dit que même nous jugerons les anges. Vous savez, souvent, on ne comprend pas la dimension de l'éternité. Et je vous rappelle que si vous n'avez aucune notion sur la dimension de l'éternité, ou très peu, vous allez avoir du mal à vivre votre vie sur la terre avec une perspective divine. L'égoïsme chez les chrétiens, le manque de consécration chez les chrétiens, beaucoup de problèmes que des chrétiens ont,
ingorane nyinshi abana b'Imana
bahura ni plus ni moins du fait
nuko kenshi usanga
qu'ils sont centrés sur eux-mêmes
ari abantu baraba ibyabo gusa
comme des païens
bakamera nk'abapagani
parce qu'ils n'ont qu'une révélation sur l'éternité
kuko nta guhishurwa na kumwe bafise kubijanye n'ibihe bitazoshye
est-ce que tu voudrais souffrir pour le royaume de Dieu
ni gute wababarizwa ubwami bw'Imana
si t'as aucune perspective de l'éternité
niba utibaza kuri kazoza
k'ibihe bitazoshye tu préfères penser à ton petit truc ton petit machin ton petit boulot ta famille ta maison ta voiture ta moto
usanguriko
bivyanse
kuvyawe ku muryango wawe ku kazi kawe kubya ku buzima bw'iwawe kuri wewe gusa
n'ibivira kazoza
jewe jewe hamamejeje ni jewe nsubireje
comment dire en anglais la sainte trinité me I and myself
ati jewe hanyuma jewe hanyuma jewe nyene.
Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça parce qu'ils n'ont aucune révélation sur
l'éternité.
La Bible nous dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que tu orientes dans ta vie, ça doit être pour le Seigneur. Tu veux créer des richesses non pas pour toi-même, mais pour le Seigneur. Bien sûr que tu seras bien, que tu pourras t'acheter ce que tu veux, mais l'objectif doit être pour le Seigneur. Tu veux consacrer ta vie, consacre-la à Dieu. Mais tu ne pourras jamais prendre de bonnes décisions motivées et influencées par Dieu. Si tu n'as aucune révélation sur l'éternité, si
tu es
toujours en train de vivre au jour le jour, l'heure qui passe. Qu'est-ce que l'heure qui passe? Moi, je suis là et c'est tout parce que y a aujourd'hui qui passe. Et je pense à moi. Et je pense à moi. Dieu nous dit que les anges sont envoyés pour exercer un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut. Et il y a plein de choses que les anges font. Et là où Dieu veut les placer. Apocalypse 19, verset 10. Jean était en train de recevoir les plus grandes révélations qu'aucun homme n'a reçues sur l'éternité. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, il y a les trésors de la connaissance. Mais tu dois creuser comme un chercheur d'or pour aller retirer le meilleur, à passer du temps à regarder la révélation de la parole. Parce que cette révélation te donnera de l'intelligence sur Dieu et te donnera aussi une transmission de cette intelligence et de la sagesse divine. Frères et sœurs, nous manquons beaucoup d'intelligence divine, beaucoup de compréhension sur qui est Dieu et sur ce monde invisible. Et c'est pour ça que souvent le peuple de Dieu se refroidit ou il n'est pas ce qu'il devrait être. Il n'est pas dans la dimension dans laquelle Dieu voudrait qu'il soit. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu aies chauffé une chaise d'église à l'église El Shaddai. Non, mais faire partie de la vision du royaume de Dieu. Oui, il t'a placé ici pour servir ici, oui. Mais pour être un serviteur. Non pas comme tu veux, mais selon la théocratie. Selon ce que Dieu veut faire et la façon dont il veut le faire. Ici, Jean va recevoir une révélation extraordinaire, l'Apocalypse. Il a une succession de visions. L'Apocalypse est un livre passionnant quand vous avez un peu d'intelligence sur le monde invisible. Mais c'est un livre avec lequel même des prédicateurs ont fait peur à des chrétiens en leur racontant tout un tas de trucs sur l'Antichrist, le 666 et la bête qui va monter de la mer.
Et
alors les gens ont la trouille. Mais l'Apocalypse n'est pas du tout cela. C'est la révélation puissante du règne de Christ à partir du monde invisible et la victoire finale de Christ avec son peuple, avec vous et moi, le peuple qui a été choisi par Dieu parce que nous avons dit oui, parce que nous avons accepté Christ comme sauveur personnel.
Christ atubera umwami n'umukiza.
Les gens étaient tellement dans cette révélation.
Abantu bakaronka ko guhishurirwa.
Il avait un ange. Il avait un ange. Il y avait un ange. Jean avait un ange.
Ah, Yohana yarafise umumarayika.
Qui va lui parler.
Mu byashuro Yohana
amareka kugana. Lui montrer toutes ces choses.
Amwereka ibyo byose.
Dans la vision qu'il a, je vous rappelle que Jean était ravi en esprit, je vous expliquais ça.
Ndabibutsa ko Yohana yakuwe mu mubiri agatwagwa muri
mwemwe. Et à un moment, il dit je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit garde-toi de le faire.
Aravuga ku murongo w'icumi ngo nikubita nikubise hasi imbere iwe imbere birenge byiwe no kumusenga.
Et regardez bien ce qu'il dit. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Littéralement, compagnon de service. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus fort. C'est un peu un terme militaire qui est utilisé ici. Parce que Dieu. C'est un Dieu qui est l'éternel des armées. On va voir un petit peu ce que la Bible dit à propos de l'armée des cieux. On va lire plusieurs choses. Regardons ensemble psaume 148, verset 2. Vous connaissez cette expression « l'éternel des armées ». Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Oh, je te loue, toi, l'éternel des armées. » C'est bien beau de dire ça, mais encore faudrait-il que tu comprennes ce que ça veut dire.
Vous
savez, parfois, on utilise des expressions qu'on a entendues à droite et à gauche et on les répète comme des perroquets. Derrière tout ça, il y a des choses.
Quand
la Bible donne des termes, des choses qui nous révèlent le caractère ou l'organisation du royaume de Dieu. Dieu est un Dieu organisé. Dieu ne fonctionne pas dans le désordre. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs ne comprennent pas l'organisation divine du royaume. Ce qui fait qu'on a beaucoup de désordre dans le corps de Christ à cause de ça. Des gens qui font tout et n'importe quoi. Sous le couvert de Dieu. Il est dit ici, louez-le vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées.
:48:2,
c'est peut-être très légèrement décalé en kirundi. Louez-le, toutes ces armées. Ok, c'est peut-être pas très bien détaillé. Regardons ensemble 1 Roi, chapitre 22, verset 19.
Abami ba mbere igice cha 42 umurongo wa 19
1 Roi 22.
Cabami cha mbere.
C'est le prophète Miché ou Miché comme certains l'appellent.
Igice cha 42.
Il est dit 1 Roi 22 verset 19. Alors Miché dit, donc le prophète Miché dit, eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux qui se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche.
Gomikaya arongera ati none rero ni wumvi jambo ry'Uhoraho mbonye Uhoraho byagiye ku ntebe yiwe ingabo zose zo mwijuru zimuhagaze buryo ni bumoso.
Donc il est dit ici qu'il y a l'armée des cieux qui se tient près de lui à sa droite et à sa gauche.
Ingabo zose zo mwijuru zimuhagaze buryo ni bumoso.
Il y a un terme qui est utilisé dans la Bible.
Hariho ijambo rikoreshwa muri Bibiliya.
Qui est associé à l'Éternel.
C'est
l'Éternel des armées. C'est en hébreu Yahweh Sabaoth.
Yahweh Sabaoth.
1 Roi chapitre 18 verset 15. Il y a un certain nombre de références que vous verrez dans l'Ancien Testament. Il est dit, mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. L'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Ici, quand on parle de l'Éternel des armées, on parle de l'armée des anges. C'est l'armée des anges dont on parle ici. L'Éternel des armées. Ce ne sont pas les armées des pays X ou Y. Ce ne sont pas des armées humaines. Ce n'est pas l'armée d'Israël. Mais c'est l'armée des anges dont il est parlé ici. Et dans une armée, il y a toujours une hiérarchie. Et tous les militaires disent Amen. Parce que les militaires savent très bien dans une armée il y a une hiérarchie.
C'est ce qu'on
leur fait apprendre très rapidement d'ailleurs. On va revoir aussi dans ce domaine-là l'Éternel des armées, un passage qu'on connaît bien dans Ésaïe 6 verset 3. Donc nous en sommes dans l'étude sur les anges. Nous étudions qui sont ces anges. On a vu que c'est des esprits et qui sont au service, d'abord qui sont autour du trône de Dieu en multitude, mais on sait aussi qu'ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc tout ça, ça nous renseigne un peu plus sur les anges. Mais on voit aussi que la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées. Et quand on étudie plusieurs passages parallèles, on voit qu'on parle de l'armée des anges. Là, il est parlé des séraphins, donc ces créatures angéliques, dont nous avons très peu d'enseignements, nous avons seulement une mention, c'est dans Ésaïe. Et on sait que ces séraphins volent, qu'ils ont des ailes, et on sait aussi qu'il y a les séraphins et les chérubins. Les chérubins, apparemment, il y en a quatre. Les séraphins, on ne sait pas exactement. Et on sait que ce soit les chérubins ou les séraphins, ils gardent l'intégrité du trône de Dieu. Maintenant, on voit aussi, ils criaient l'un à l'autre, c'est les séraphins qui crient ça, et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire ».
Baravuga ku murongo wa gatatu ngo babarira n'abasemera ngo batuweru weru wera ni uhoraho nyene ngabo isi yose yuzuye icubahiro cyiza.
Donc quand vous voyez cette expression l'Éternel des armées dans l'Ancien Testament,
yuri kurabona iki kintu ngo uhoraho nyene ngabo mu isezerano rya kera,
ceci fait référence à quoi? Aux anges.
Iki cerekana iki kivuga iki abamarayika?
C'est la référence aux anges.
Bivuga ku bamarayika.
Alors, les anges sont hiérarchisés. On peut voir cela dans la Bible. Il y a plusieurs expressions qui sont utilisées avec le mot ange.
1
Thessaloniciens
4:16
va nous révéler un terme qui est associé aux anges.
1
Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Il nous est parlé ici de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église, le premier retour de Jésus. On peut lire à partir du verset 15, s'il vous plaît. Et le verset 15 nous montre, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Ça va être l'enlèvement de l'Église, le premier retour de Christ. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Ngo iki nico tubabwira ni jambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya.
Et au verset 16, il va Paul va nous révéler quelque chose. Verset 16. Il est dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ngo kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka.
Donc la Bible nous parle de quoi? Des archanges.
Hariho Bibiliya itubwira ngo abamarayika bakuru.
C'est une autre révélation donc on va trouver dans la parole de Dieu.
Uko nuko ndi guhishurirwa dushobora kubona mu ijambo ry'Imana.
Les archanges.
Abamarayika bakuru.
Littéralement ça veut dire chef des anges. Il y a une hiérarchisation parmi les anges. Dieu a donné plus ou moins de puissance à certains anges. Mais les anges sont hiérarchisés et ordonnés. Ils sont organisés.
Ce
n'est pas n'importe quoi qui peut se faire de droite et de gauche. Dans Jude, chapitre 1, verset 9, la Bible va encore nous montrer quelque chose. Jude chapitre 1, verset 9. C'est juste avant l'Apocalypse. Et on voit ici que, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime.
Hamwe yatongana na wa mugwanizi aharira nawe bapfa umubyimba wa Mose ntiyubahutse kumuhinyura ngo amucokore ariko yamubwiye atuhoraho aguhane.
Donc en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a des archanges, il y a plusieurs mentions dans la Bible du mot archange.
Ara turabona yuko hariho kenshi muri byaho bavuga ngo umareka mukuru, abamareka bakuru.
Et ces archanges vont souvent avoir un rôle très prophétique. Particulièrement, comme nous l'étudierons un peu plus tard, dans les jugements divins. Et si vous étudiez un peu le Nouveau Testament, vous verrez que le mot ange et archange se trouvent très souvent, en tout cas pour le mot ange, dans l'Apocalypse.
Usanga rero ugiye kuraba ukiga neza ijambo abamareka cyangwa abamareka bakuru ubibona cyane cyane mu byahishura Yohana.
On parlera pas forcément d'archanges, on parlera d'anges puissants.
Hari gusanga bavuga ngo abamareka b'inkomezi.
On voit qu'il y a des anges qui ont plus ou moins de puissance.
Nubanga abamareka barasumbana mu bukomezi.
Et on a énormément de mentions du mot ange dans l'Apocalypse particulièrement.
Ugasanga rero hari ahantu henshi tugenda turabona bavuga abamarayika cyane cyane mu byahishura Yohana.
L'Apocalypse va beaucoup nous renseigner sur la fin des temps.
N'igitabo kitwigisha cyane kubihe bya nyuma.
Et du rôle des anges que les anges vont tenir à la fin des temps.
N'igikogwa abamarayika bazokora mu bihe bya nyuma.
Alors, nous allons étudier cela, bien évidemment, mais un peu plus tard. Là, pour l'instant, nous allons nous intéresser à d'autres choses. La Bible va nous révéler aussi que les anges ont des noms. Et la Bible va nous en donner un certain nombre. Que vous connaissez tous si vous étiez dans l'église traditionnelle. Si vous étiez dans l'église traditionnelle, on vous a tous raconté l'histoire de l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel, il n'est pas seulement apparu dans le Nouveau Testament. On va regarder Daniel chapitre 8, au verset 16. Daniel chapitre 8, verset 16.
Daniel 8, umurongo wa 16.
Et là, nous allons découvrir
tubona
qu'il y a un ange.
Yuko hariho umumarayika.
Et c'est Daniel qui va avoir une vision.
Daniel arerekwa.
Et au verset 15, il est dit: tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision que je cherchais à la comprendre, voici que se tenait devant moi quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme au milieu de l'ouaille. Il cria: Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci.
Nuko je ubwanje Daniel ku murongo wa 15 maze kubona ibyo neretswe ndondera uko nobitahura mbone kimpagaze imbere gifisi ishusho nk'iy'umuntu maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati mu ruzi Ulayi rihamagara riti: yewe Gabriel, tahuza uwo muntu ibyo yeretswe.
Et Gabriel semble être un ange extrêmement puissant qui a toujours eu un rôle prophétique sur la nation d'Israël.
Gabriel ubiravye umwengano mu marayika w'inkomezi nyinshi yagiye arakora igikorwa gitandukanye cyo gufasha abanyisiraeli mu bihe bitandukanye mu buvugisho.
Parce qu'on va le retrouver à plusieurs reprises.
Kuko turamubona mu incuro zitari nke.
On va le retrouver au chapitre suivant, au chapitre 9 au verset 21.
Arongera akaboneka ku gice gikurikira igice cy'icyenda umurongo wa 21.
Et il est dit: je parlais encore dans ma prière, c'est Daniel qui prie et qui parle. Quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alors donc on voit un ange qui a qui est puissant d'abord.
Qui
a un nom qui s'appelle Gabriel.
Et
Gabriel, ça veut dire héros de Dieu. Héros de Dieu. C'est ce que ça veut dire. À chaque fois que vous avez El quelque part dans un des noms de l'Ancien Testament,
ça
veut dire qu'il y a Dieu quelque part. Bethel, ça vient de deux mots qui veulent dire ni plus moins maison de Dieu.
Bethel, nous pouvons dire inzu yimana.
Gabriel, ça veut dire héros de Dieu.
Gabriel, nous pouvons dire
umuhizi. Donc à chaque fois que vous avez des noms en EL que vous lisez dans la Bible, il y a le mot Dieu dedans.
Aho soma rero EL hose mu nyuma usanga harimo imana.
C'est une abréviation de Elohim, Dieu.
Ni gucisha bugufi amajambo make guhamagara Elohim niko novuga.
Et en fait ici on voit que il ressemble à un homme.
Aho baravuga ngo mbonu usa n'umuntu ahagaze imbere yanje.
Et d'ailleurs partout vous avez des visions.
Bere ahantu hose bavuga kwerekwa.
Personne des visions de la Bible.
Ukwerekwa kw'ijambo ry'Imana.
Aucun de ceux qui ont des visions de la Bible et qui ont écrit dans la Bible.
Nta nahamwe bona ukwerekwa canke banditse mu ijambo
ry'Imana. Aucun des prophètes ne dira.
Nta muvugishwa n'umwe avuga.
J'ai vu un ange qui avait des petites ailes.
Ngo mbona ngumpagaze imbere mugabo ari mu kirere afise tubaba.
Non, absolument pas.
Nta nahamwe babivuga
ibyo. Ni les anges ni les archanges ont des ailes.
Nta mumarayika nta marayika mukuru n'umwe afise amababa.
Les seules créatures angéliques qui ont des ailes, ce sont les séraphins et les chérubins.
Ibinyabugingo byonyene by'amarayika bifise amababa na baserafi hamwe n'abakerubi.
C'est ce que la Bible nous révèle clairement.
Nico Bibiliya ngaha itwereka neza.
Donc si un jour vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a une vision d'un ange et qu'il est venu avec des petites ailes, tu lui diras, tu as dû manger un mikeke pourri la nuit dernière.
Là,
c'est pas parce qu'il est dit que l'ange volait qu'il a des
ailes. Non,
parce que rappelez-vous, les anges n'ont pas de corps, ils n'ont pas de poids. Pour oui. Avoir un esprit n'a pas de masse. Et pour voir un ange, il faut avoir ce qu'on appelle un don de discernement des esprits, c'est-à-dire une capacité surnaturelle de voir dans le monde invisible. Donc je tenais à faire cette précision parce qu'il y a souvent des gens qui fabriquent des visions avec leur imagination.
Et ils vendent
leur DVD, et ils vendent très bien leur DVD. Donc n'acceptez jamais quelqu'un qui vous dit j'ai une vision, ou même un prédicateur, ou même qui que ce soit qui rend un témoignage en disant j'ai vu un ange avec des ailes. Les anges ressemblent, ont la même morphologie, si on peut s'exprimer ainsi, que nous les hommes. Mais ils n'ont pas de corps. C'est la différence. Et n'acceptez jamais aussi de gens qui vont vous dire que les anges se sont accouplés avec des femmes. Parce que pour s'accoupler, me semble-t-il qu'il faut un sexe, et pour avoir un sexe, il faut un corps.
Kugira ngo umuntu ashobore kuryamana n'umugore bisaba ko abafise igihimba cirondoka ivyo navyo n'umubiri ivyamareka navyo
bagira. C'est bizarre mais il y a beaucoup de fables qu'on a construites autour des anges.
Hari ibintu rero by'ibitito byinshi bagiye baravuga kubijanye n'abamarayika.
Donc c'est clair, Gabriel.
Gabriel rero
va apparaître deux fois au prophète Daniel, Ancien Testament.
Yari yeretse incuro zibiri umuvugishwa Daniel.
Et nous allons aussi retrouver Gabriel qui va apparaître dans le Nouveau Testament.
Torongera tukabona Gabriel aboneka.
L'histoire que nous avons tous entendue quand nous étions petits à propos de Jésus et de Marie. Il est dit, chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 19, Gabriel va apparaître deux fois avant la naissance de Jésus, une fois donc à Zacharie et une fois aussi à Marie.
Gabriel va apparaître deux fois avant la naissance de Jésus, Marie.
Au verset 11 d'abord de Luc, chapitre 1, il est dit « Alors lui apparut un ange, là on parle donc de Zacharie, du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. » C'était l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. « Il sera pourtant un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère, et il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Ça nous rappelle l'histoire d'Abraham et de Sarah. Verset 19, il est dit, l'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » Verset 19, s'il vous plaît, en Kirundi.
Gabriel, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza.
Donc on voit ici Gabriel qui va annoncer encore quelque chose.
Aha turabona Gabriel yongera kuboneka akagira icyo
avuga. Ça a été le cas pour le prophète Daniel.
Niko byagenze kumuvugishwa Daniel.
Où l'ange Gabriel est venu expliquer la vision au prophète Daniel.
Umumareka Gabriel aza gusobanurira ukwerekwa agusobanurira Daniel.
Daniel l'a vu deux fois.
Daniel abibona inchuro zibiri.
Et là on voit encore que Gabriel vient envoyé par le Seigneur pour annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, du prophète Jean-Baptiste. Et Gabriel va avoir aussi une autorisation de pouvoir apparaître et de donner un message divin à Marie.
Luc 1, verset
26. Il est dit au sixième mois, l'ange Gabriel, on le retrouve encore, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Il vint chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui a dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. » Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui avait été appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc on peut juste lire, s'il vous plaît, le verset
26.
Donc on voit ici que Gabriel apparaît à Marie.
Alors, turabona ko Gabriel yiyeretse Maria.
Donc on voit que l'ange apparaît selon quoi ? Selon un ordre divin. Il semble très clair que les anges ne peuvent pas apparaître de leur propre chef, de leur propre décision. Mais ils sont 100% soumis à Dieu. Il y a un certain nombre d'apparitions d'anges dans la parole de Dieu. Et à chaque fois que quelqu'un va voir un ange,
ce n'est
pas pour que l'ange lui dise, tu sais, aujourd'hui il pleut, mais demain il y aura un joli soleil qui va se lever sur le pays. Mais ce sont des messages importants qui ont été transmis de la part du ciel et initiés par le ciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut provoquer dans la prière ou par le jeûne. Ne faites jamais cela en disant, Dieu, je veux qu'un ange m'apparaisse et je jeûne et je prie jusqu'à temps qu'il m'apparaisse. Parce que croyez-moi, il y a quelque chose qui va vous apparaître, mais ça ne sera pas un ange. Faites attention, ne violez pas des lois spirituelles. Apprenez à respecter Dieu et son royaume. Nulle part la Bible nous dit que nous devons avoir une apparition d'ange. Si elle se fait, gloire à Dieu. Et maintenant, si on reçoit quoi que ce soit, nous devons toujours le confronter à la parole. Si elle ne se fait pas, gloire à Dieu. Nous marchons par la foi. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Si ce genre de choses se passe, moi personnellement, je n'ai jamais vu d'ange.
Mais,
car je suis moi-même un ange, bien sûr. Non mais sérieusement, mais on peut faire de grandes choses avec le Seigneur sans avoir d'apparition d'ange. Maintenant, s'ils nous apparaissent, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mais il y a des gens à qui des anges sont apparus et qui ont été rétrogrades des années plus tard.
C'est
pas une garantie que tout va très bien se passer dans votre vie. J'ai remarqué une chose d'ailleurs. Quand Dieu nous parle très fortement par des signes spectaculaires, ça veut dire que nous allons sérieusement souffrir pour cela. Ça, c'est ce qu'on verra partout, que ce soit dans la pratique ou que ce soit même dans la parole de Dieu. Plus Dieu nous parle fortement ou de façon spectaculaire, plus nous aurons de difficultés d'opposition et de persécution. Mais nous marchons par la foi. Maintenant, les anges peuvent apparaître et disparaître. Mais non pas par l'initiative d'une personne. Non pas par la prière d'une personne. Nulle part dans la Bible, nous voyons quelqu'un qui a recherché une révélation des anges. Paul d'ailleurs préviendra les Colossiens. Que si même un ange leur apparaît et annonce un autre évangile que celui qu'il a annoncé, que les Colossiens doivent faire très attention, qu'ils doivent refuser ces choses. Rappelez-vous que le diable se fait passer aussi pour un ange de lumière, se déguise. C'est comme ça que Ève s'est fait rouler. Donc c'est important de comprendre là où Dieu veut nous parler au travers des anges et là où il ne veut pas nous parler. Tu as le droit de chercher Dieu pour dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux pour ma vie, quelle est la direction que je dois prendre, quelle est ta volonté. » Mais la manière dont Dieu va te parler, ce n'est pas à toi de lui dire. Ça, c'est très dangereux de faire ça. De dire « Dieu, je veux voir un ange. Dieu, je veux avoir une vision. Dieu, je veux entendre une voix audible. » Non. Dieu te parlera de la manière dont il veut te parler. Si ça se passe, gloire à Dieu. Si ça ne se passe pas, l'important c'est que Dieu te transmette le message. L'important c'est pas la façon dont Dieu a transmis le message. L'important c'est que Dieu va te transmettre son message et que tu obéisses et que ça se passe dans ta vie. Le reste peu importe. Si Dieu a utilisé une vision, si Dieu a utilisé une voix audible, si Dieu a utilisé une prophétie, peu importe. C'est pas ça l'important. L'important c'est la façon dont tu reçois ce message et comment ce message va se réaliser dans ta vie. Sinon, ça ne sert à rien d'aller dire Dieu a dit comme ça, j'ai vu ceci ou j'ai vu cela. C'est pas ça qui est important. Donc les anges vont venir faire quoi? Ce sont des messagers, nous dit la Bible. Les anges sont des envoyés, exercent un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut. Donc ils vont transmettre un message. Un message du ciel aux hommes. C'est le rôle des anges. Le rôle des anges n'est pas d'aller prêcher l'évangile. Le rôle des anges, c'est de transmettre des messages divins à l'humanité. Nous en avons un exemple, mais en attendant, je voudrais d'abord continuer sur les noms des anges. Il y a un autre ange qui se révèle dans le livre de Daniel, Daniel 10, versets 13 et 21, et Daniel 12, verset 1 aussi. C'est l'ange Michaël. Et je vous dis, tous les Michaël ne sont pas des anges. Daniel chapitre 10.
Daniel igice cy'icumi.
Mais Michaël c'est le nom d'un ange.
Michaël ni izina ry'umumarayika.
Daniel chapitre 10 au verset 13.
Igice cy'icumi murongo wa 13.
Il est dit la chose suivante. On va lire à partir du verset 12. Daniel a encore une vision.
A Daniel ngaya kwerekwa ibintu kadohere kuri 12.
Et il me dit, Daniel, sois sans crainte, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. Regardez bien le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici que Michel ou Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là.
Aravuga ku murongo wa 13 ngo ariko se gaba ubwami bw'Iperesi yamaze iminsi 21 angwanya hanyuma Mikayeli umwe wo mubagabisha bahambaye aza kuntabara sigara yo mubami
b'Iperesi. Au verset 21, il est dit: mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité, personne ne met contre cela excepté Michael, votre chef.
Ngo ariko ndakubarira ibyanditswe mu gitabo cy'ukuri kandi nta uriho wo kuntabara kubagwanya atari Mikayeli umugabisha wanjye.
Au chapitre 12 verset 1, il est encore en train de parler de Michael.
Cyumina kabiri murongo wa mbere yongera kuvuga ibya Mikayeli.
Il est dit: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, celui qui se tient bon en faveur des fils de ton peuple, et ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci.
Gomaze ico gihe Mikayeli azohaguruka niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kageze ico gihe.
Bon, si on étudiait tous ces passages, on n'a pas le temps de trop décortiquer, mais je vais vous expliquer certaines choses ici. Daniel reçoit des visions. Et après, il va se mettre dans un jeûne de 21 jours. Et il n'y a rien qui se passe. Et d'un seul coup, justement, l'ange arrive. Et
il
lui dit: voilà, j'ai pas pu te transmettre ce message. Parce que j'étais empêché par justement quoi? Par une principauté démoniaque, c'est ça qu'il veut expliquer ici. Et il y a Michael qui est venu justement pour empêcher cette principauté démoniaque de continuer à me déranger. Et c'est là où l'autre ange est venu, certainement Gabriel, pour lui transmettre le message.
Gabriel achaza kumuha ubwo butumwa.
Mais on voit que Michael est considéré comme un ange puissant. Que l'on retrouve au chapitre 12 où là on parle de la fin des temps pour Israël. Et ce passage, et on reviendra aussi dessus, va nous montrer qu'il y a aussi des choses qui se passent dans le deuxième ciel. Et qu'il y a certaines principautés sataniques qui sont placées au-dessus de certaines nations dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle les esprits dans les lieux célestes. Nous en parlerons parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet-là. Là, nous sommes dans les temps de l'Ancien Testament. Et on voit qu'il y a un combat entre les anges de Dieu et des principautés sataniques. Mais on voit que cet archange
Michael,
en fait, veille sur le peuple d'Israël. Donc on voit qu'il y a deux archanges principaux, on peut dire, qui sont Michael et
Gabriel,
qui ont eu des rôles et qui ont des rôles prépondérants concernant la nation d'Israël. On retrouve dans Jude chapitre 9, chapitre 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. On a lu tout à l'heure ce verset, mais là, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'archange Michael. Il est dit: or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michael n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime.
Hamwe yatongana na wa mugwanizi aharira nawe bapfa umubyimba wa Mose ntiyubahutse kumuhinyura ngo amucokore ariko yamubwiye atuhoraho aguhane.
Michael, ça veut dire celui qui est semblable à Dieu.
Michael bisobanura ngo usa n'Imana.
Ou qui est semblable à Dieu?
Change,
qui est comme lui?
Asa n'Imana.
Et en fait, on voit ici qu'il est appelé archange.
Atubona ko bamwita umumarayika mukuru.
Et on le voit, on parle d'un événement qui n'est pas relaté dans l'écriture. de cette dispute du corps de Moïse. Si vous ne savez pas comment Moïse est mort,
et
bien vous pourrez lire Deutéronome chapitre 34. Moïse a eu une mort vraiment étonnante. Dieu lui a dit, parce qu'il avait désobéi une seule fois dans le désert, Dieu lui avait dit, parce que tu as frappé le rocher alors que je t'avais dit de parler au rocher, tu n'entreras pas dans le pays promis. Moïse avait essayé de négocier son entrée dans le pays promis. C'était son appel premier, c'est d'amener le peuple de Dieu dans le pays promis. Mais Moïse avait désobéi ce jour-là. Et vous allez me dire, quoi? Il a juste frappé un rocher parce qu'il était énervé. Au lieu de lui parler. Oui, mais derrière tout ça, il y avait tout un symbolisme. Le rocher, c'était Jésus. Qui a été frappé par le Père, nous dit la parole de Dieu. Et à partir du moment où il a été frappé de Dieu à notre place, il a subi la punition à notre place, l'eau, symbole de la vie du Saint-Esprit, est sortie du rocher, est sortie de Christ. Cela nous montre aussi quelque chose de très important. Plus quelqu'un a un appel et une onction forte, plus la moindre lui coûte cher. Dieu a interdit Moïse d'aller dans le pays promis parce qu'il avait frappé le rocher, qu'il était énervé, parce que le peuple lui créait beaucoup d'histoires au lieu de parler au rocher. Donc à la fin de sa vie, lorsqu'il a 120 ans, Dieu dit à Moïse, va, monte sur la montagne, c'est là où tu vas mourir. J'imagine Moïse qui commence à regarder la montagne et qui commence à marcher en se disant, oui, quand je serai là-haut, c'est fini. Imaginez-vous Dieu qui vous dit ça. Tu vas monter là et c'est là où tu vas t'écrouler.
Bon.
C'est comme ça que Moïse est mort. Il faut que vous sachiez que la Bible ne nous dit pas où Moïse a été enterré. On ne sait pas où Moïse a été enterré. Et il semblerait que Dieu, en tout cas c'est ce que certains disent, je suis d'accord avec cette interprétation, que Dieu s'est arrangé pour que le corps de Moïse ne soit pas dans un endroit où les Israélites auraient pu l'idolâtrer. Parce que l'Israël avait un sérieux problème d'idolâtrie. Et il semblerait que c'est cette raison pour laquelle nous ne savons pas où il était enterré. Et il semblerait que dans le monde spirituel, il y a une dispute justement pour le corps de Moïse, où le diable essayait de faire certaines choses. Et c'est là où on voit l'archange Michel justement qui dit ça et qui réprime, qui repousse le diable. On n'a pas plus de lumière sur ce passage de l'Écriture. Nous continuerons la semaine prochaine. Entre temps, que chacun baisse sa tête, s'il vous plaît. Ce que je veux savoir ici, s'il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus.